peregrino y váyate con Dios. Bon chemin vers le Rhin, Dieu te donne la main.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour la 100e chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Michel Clément sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Aujourd'hui, c'est formidable, on a autour de la table Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Jean-Claude Adelin.
Bonjour à tous.
Karine Paqueton.
Bonjour.
Et tous nos amis, dont certains ou certaines ont déjà participé à l'émission. Alors, Virginie Bauer n'est pas là, elle n'aura pas pu venir. Marie-Claire Boussignac, donc, voilà, si tu peux te présenter en deux mots.
Oui, bonjour d'abord. Donc, Marie-Claire Boussignac, je suis présidente de l'association Club Hippique de Combelle, voilà. Chargée de l'animation, voilà, sur le domaine de Combelle.
Morgane Mazuc. Hein.
Bonjour, donc moi je suis ostéopathe animalier spécialisé équin à côté de Rignac, dans l'Aveyron.
Tita.
Bonjour tout le monde, je suis enseignante d'équitation à Vaxergue au lycée à Sainte-Afrique.
Pancho.
Hola, buenas tardes todos, ça va bien. Mais au fait Michel, le cheval, la plus belle conquête de l'homme et la plus belle conquête de la femme, c'est l'homme.
Ou là, ça c'est une filiation. Bon, je t'en laisse la responsabilité. Je pense que c'est une filiation, on va dire, mexicaine. Et alors, last but not least, donc le dernier mais pas le moindre, Pierre Sancy.
Bonjour, je suis également membre du club hippique de Combelle, de Rodez.
Et alors enfin en guest star, et alors là vraiment ça nous fait extrêmement plaisir, deux artistes comédiens pour lesquels j'avoue une tendresse particulière, Flamèche.
Oui bonjour, très touchée, donc Flamèche entre autres d'un certain spectacle, sinon Véronique faisant partie de la compagnie Fireman basée à Lunel, près de Conques, dans l'Aveyron.
D'accord, et donc ton complice je crois sur scène et dans la vie me semble-t-il Brayu, Alain Brayu.
C'est moi, bonjour.
Alors c'est un couple redoutable qui a déjà failli me faire mourir de rire 4 ou 5 fois. Donc c'est vraiment un couple redoutable. Il faut faire très très attention. On risque d'en crever. C'est extraordinaire ce qu'ils font entre parenthèses. Alors mes amis, vous êtes tous prêts pour une chevauchée radiophonique de 55 minutes parce que c'est 55 minutes aujourd'hui.
Oui, ah ben oui, ben oui, ben oui.
Voilà, oui, 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 c'est impeccable. Alors bon, ben... Dans cette émission, nos auditeurs le savent, le messager du cheval s'amuse souvent à prendre les mots au mot. Et aujourd'hui, ce mot, c'est lasagne.
Alors là, évidemment.
Lasagne apparaît. Ah non, ça, on va manger la lasagne jusqu'à la gamelle. Donc, lasagne apparaît dans notre langue vers la fin du 15e siècle. Certains linguistes la feraient dériver du mot losange, lui-même issu de l'arabe ou du persan, c'est pas trop, et désignerait des gâteaux aux amandes de forme carrée. Nous connaissons toutes et tous ces fleurons de la cuisine italienne, bien sûr, hein, Pierre, hein. N'est-ce pas? Qu'est-ce que serait que la cuisine italienne sans lasagne?
Ah oui, elle est excellente, mais plutôt sans cheval quand même.
Voilà. Alors donc les lasagnes, cette espèce de ruban de pâte fourré de viande hachée et cuite au four. Mais parfois une langue peut avoir des accents phonétiques. Dans l'argot français du début du XXe siècle, en effet, lasagne désigne un porte-monnaie. Eh ouais, porte-monnaie qui pourrait être mis à contribution quelques jours venant pour payer de sévères amendes qui ne devraient rien au bel amandier. Voilà, donc wow. Suite du feuilleton.
C'est la différence entre bourse alors. Bourse. Ben, il vaut mieux qu'elles soient pleines, qu'elles ne soient pas vides, parce qu'en ce moment, elles sont vides, hein, partout.
Qu'est-ce que tu vas dire? Tu commences à nous faire peur, là.
La bourse est un nom aussi pour désigner un endroit pour mettre l'argent.
Donc, bourse et écu, si je comprends bien, voilà. D'un côté et de l'autre. Voilà,
parce qu'au Mexique...
Ça devient dangereux, là, quand même, hein, Michel, bourse et écu, si je peux me permettre.
Alors, au Mexique, on rejoint tout à fait la chose, puisqu'on se sert de la peau des scrotums des taureaux pour se faire des sacs à main pour les dames. C'est-à-dire qu'on met les sous dans les bourses.
Tout à fait, et aussi des blagues à tabac.
Exact.
Des blagues à tabac, hein. Oui, tout à fait. Donc, selon qu'on est gros fumeur ou petit fumeur, on prendra un petit taureau ou un grand taureau, c'est pas ça.
Tu vois qu'on a beaucoup de menées.
Mais lasagne, j'avais jamais entendu parler de ça pour désigner un endroit pour mettre l'argent. La lasagne, vraiment.
Eh ben oui, voilà.
Tu vois. Quelque chose que j'apprends aujourd'hui, oui.
Eh ben tu vois, dans le messager du châle, on apprend toujours plein de choses. Bon, ben on va peut-être, question lasagne, laisser la bouffe au rayon des surgelés et en venir à celui qui nous rassemble tous aujourd'hui, évidemment, le cheval et cette passion que nous lui portons. Alors, rapidement, c'était d'abord un animal chassé, domestiqué, utilisé dans l'agriculture et dans les transports. Bon, on le sait, ça n'a rien d'original. Grâce à sa force, d'une part, et sa docilité. C'est vrai que le cheval est quand même un animal gentil. Bon, également ratatiné de temps en temps sur les champs de bataille, ça lui est arrivé. Et dans la seconde moitié du 19e siècle, sa viande est considérée comme plus saine et plus énergisante que celle des autres animaux de boucherie, effectivement. Et elle est réputée exempte de parasites et de maladies, en particulier de la tuberculose, un véritable problème de santé public à l'époque. Donc c'est vrai que les nutritionnistes et les médecins recommandaient la viande de cheval. Alors c'est finalement depuis assez peu de temps, et là on a vraiment une chance de pouvoir le vivre en temps réel, en réalité, nous, nos générations qui sommes rassemblées ici. Donc c'est depuis assez peu de temps, finalement, une soixantaine d'années, grosso modo, pour aller vite, que le cheval, qui était un animal de peine, un animal d'agriculture, a été hissé, a changé de statut, et donc est devenu un animal au rang d'animal de compagnie. Et c'est certainement aussi pour ça, bon, comme le chien, comme le chat, et c'est pour ça que effectivement ce changement de statut fait qu'on ne le regarde pas de la même façon, et que d'une certaine façon, le fait de manger de la viande de cheval nous révulse un peu, il faut bien le dire.
D'autres religions nous l'interdisent.
On n'irait pas croquer un chat, son chat, on n'irait pas croquer son chien, on n'irait pas croquer son poisson rouge, son canari non plus, son ménate chanteur. Bon,
mais son copain non plus, hein, puisque autrefois les gens étaient cannibales.
Oui, ça dépend des circonstances, hein, quand il n'y a plus rien à manger.
Et du pays aussi.
Ah oui, non, mais ça d'accord. Non, mais je parle sous nos climats, effectivement. Voilà. Effectivement, on est offusqué à l'idée de manger du cheval. De la même façon qu'en Angleterre, ça fait beaucoup plus longtemps, hein, il ne s'agit pas d'aller croquer un cheval en Angleterre, vraiment, ça passera très mal, et y compris le lapin. Nous, on mange du lapin, sans problème, c'est un animal de basse-cour, donc qui est toujours pour l'alimentation humaine, et c'est vrai que le lapin, pour les Anglais, ben, c'est comme un chat, quoi.
Il n'y a pas très longtemps, le vol de cheval était condamné à mort.
Ouais.
Il pendait celui qui volait un cheval.
Et alors, on le voit même aussi dans la sémantique, c'est-à-dire que, bon, une personne qui mange du cheval, on va dire que c'est un hypophage, donc c'est un espèce de bricolage, la fin du 19e siècle, où on prend du grec ancien, on le colle un petit peu avec une mauvaise colle, pour faire un mot un petit peu bizarre. Mais par contre, la viande de bœuf, on ne dira pas à quelqu'un qui mange de la viande de bœuf que c'est, ben, je vais reprendre la même chose, le même bricolage, un bosphage. Ça, on ne le dit pas. On dit que c'est un amateur de steak. Voilà. Donc, c'est un petit peu différent. Alors voilà, maintenant, je vais vous laisser réagir. Moi, j'ai bien travaillé. Maintenant, c'est à vous. Alors justement, ce statut du cheval qui a complètement évolué et qui est en train d'évoluer, Jean-Claude, tu nous le disais, Jean-Yves, tu nous le dis, tu nous le redit que déjà dans le mot, le cheval ne se dresse pas, le cheval s'éduque. C'est important, les mots ont un sens. Alors je vous laisse réagir là-dessus. Mais Pancho
Pancho,
vas-y.
Je t'en prie.
Non mais c'est intéressant que les mots ont un sens, surtout avec les chevaux, parce que le sens des mots donne une idée, donne une intention, et donne une pensée, et donc donne une action. Et étrangement, le cheval perçoit déjà le sens du mot entre guillemets avant l'action, c'est-à-dire que si on va demander quelque chose à un cheval, si on est en connexion et en communication avec lui, si on est en relation avec lui, effectivement à ce moment-là, le cheval déjà peut réagir avant l'action.
C'est de la télépathie, c'est de la radiesthésie, et ça, les chevaux sont très sensibles à ça, c'est l'animal le plus réceptif.
Au niveau sémantique, au Mexique, c'est très drôle, parce qu'on va beaucoup plus loin même, puisque nous, on dit, on parle pas de pattes pour un cheval. On dit les pattes d'une vache, mais on dit les pieds. Hein.
Les pieds, les
mais
jambes
par
et les pieds,
contre,
oui.
Par contre, au Mexique, on va beaucoup plus loin. On dit les mains pour les antérieurs et les pattes pour l'arrière.
Alors, mains pour les antérieurs et pattes... Comment tu le dis en espagnol, mano. Mexicain? Mano. Oui, mano.
Sous mano.
Oui.
Et c'est très très impressionnant parce que justement on s'aperçoit, et je me souviens de d'une route du sel avec Jean-Yves quand j'avais des problèmes de vision et que je disais mais comment je vais faire pour hein? Il m'a dit t'en fais pas, ton cheval lui voit où il met les pieds.
Ah ben ça c'est sûr. Ouais.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là il y a un toucher des antérieurs
qui tactile.
Pourrait tactile qui pourrait se être beaucoup plus proche de nos mains que de nos pieds.
Alors justement, qu'est-ce qu'en pense Morgan Mazu, qui est notre ostéopathe qu'on adore, notre ostéopathe de l'étape. Alors justement,
bah effectivement, les chevaux, enfin le dessous des pieds des chevaux, il est très sensible. On parlait tout à l'heure justement du ferrage, etc. Et quand ils sont pieds nus, on a une proprioception qui est très importante, c'est-à-dire qu'un cheval qui, par exemple, n'est pas ferré, va pouvoir vraiment ressentir avec le dessous du pied, en fait, où il marche, où il met les pieds, alors que quand on le ferre, il va moins bien sentir, en fait. Et puis le pied fonctionne moins bien aussi, mais donc c'est vrai qu'il y a effectivement, après entre les antérieurs et les postérieurs, je sais pas s'il y a vraiment une énorme différence entre les deux, mais ce qui est sûr c'est que oui, ils sentent très bien par le dessous des pieds, ce qui touche dessous.
Alors il faut effectivement rappeler que le pied d'un cheval est extrêmement vascularisé, et extrêmement innervé aussi, et oui, on a tous fait l'expérience effectivement dans la neige, le cheval qui est dehors, on lui prend le pied est tiède. Le pied est tiède, on sent la chaleur du pied, voilà. Donc, et puis ça a peut-être un autre effet aussi, le sabot du cheval, quand le cheval marche.
Il y a un effet pompe avec la fourchette, en fait, qui est très important, et effectivement, en fait, quand la fourchette touche le sol, ça renvoie le sang vers le cœur, et puis en fait, donc du coup, quand le cheval est pas ferré, là, il faut que la fourchette touche le sol tout le temps pour pouvoir avoir cet effet-là. Il y a un cheval qui sera ferré, ou alors qui aura les pieds encastelés, où la fourchette ne touchera pas le sol, il pourra pas avoir cet effet pompe, en fait.
Il ne pourra pas avoir cet effet pompe, absolument.
Et quand la fourchette est échauffée, ça doit provoquer une boiterie quand même.
Oui, tout à fait. Après, il ne faut pas non plus que la fourchette elle frotte trop non plus, mais quand il faut qu'elle touche juste le sol en fait pour pouvoir faire cet effet pompe.
Alors maintenant, je vais me tourner vers. Ah, je préfère vos noms de scène, alors je vais les dire. Flamèche et Braille. Voilà. Vous montez à cheval déjà?
Ben, le cavalier a confirmé.
Merci Jean-Yves. je resterai beaucoup plus humble. Ben, le cheval, c'est ma première passion quand même depuis tout petite. Donc on en a à la maison, on les a élevés comme on a pu, du mieux qu'on a pu. On travaille entre guillemets, hein, on essaye de faire des choses ensemble, de se comprendre le mieux possible et d'avancer, de s'apprendre des choses. Donc c'est une aventure magnifique et vraiment, des fois, j'ai l'impression que plus on avance et plus, des fois, je me dis qu'il y a tellement de choses encore à découvrir chez eux. C'est immense, quoi. Il y a un domaine, je pense qu'ils ont des possibilités incroyables encore, qu'on est loin encore de tout découvrir, quoi.
D'accord. Et alors, donc, vous menez des spectacles qui sont assez extraordinaires. Est-ce que vous vous considérez comme des artistes de rue, des comédiens de rue?
C'est ce qu'on peut dire.
C'est ce qu'on peut dire, voilà.
Même s'il nous arrive de jouer en salle, on est dans la famille des spectacles de rue.
Des spectacles de rue, voilà. Et est-ce que vous avez eu peut-être une petite idée qui vous trotte derrière la tête, c'est-à-dire d'intégrer, parce qu'on sait que le cheval, c'est un comédien aussi, un comédien à part entière. Jean-Claude ne va pas me dire le contraire, et Jean-Yves non plus, et ceux qui sont autour de la table, pareil. Hein. L'idée de peut-être intégrer un de vos chevaux dans vos spectacles.
On l'a déjà fait.
Ah, ben alors c'est très bien, mais je vous ai jamais vu. Alors, peut-être que j'étais déjà mort de rire.
Mais en fait, il n'y a pas grand monde qui nous a vus, de toute façon.
Il n'y a pas grand monde qui vous a vus.
Ici.
Mais ça nous est arrivé à plusieurs reprises, sans trop de pression non plus. On a participé à beaucoup de salons de cheval avec d'autres compagnies. On connaît bien le milieu du spectacle équestre. Mais nous, quand il nous arrive de les sortir, c'est souvent chez nous, puisque chez nous, on a un lieu qui peut recevoir aussi du public. Et quand on le fait, on veut être sûr que les chevaux soient bien d'abord. C'est pas le public en premier. Si on sent qu'ils sont pas attachés comme il faut au bon endroit, si c'est trop long à attendre, si on essaye de poser les bonnes questions pour qu'ils soient le mieux possible et le plus tranquille.
Les chevaux qu'on a sont nés à la maison, ils sont nés dehors, ils vivent dehors toute l'année. Donc, on essaye d'abord de les mettre dans un milieu le plus proche de ce qui pourrait être en liberté. Donc le travail qu'on fait, c'est pas un travail régulier, c'est d'abord pour la passion. Et quand on sent qu'on est prêt pour quelque chose, on va pouvoir l'intégrer. Mais c'est pas la priorité. Le cheval, il n'est pas outil de travail chez nous, hein, pour nous, puisque parce qu'on se déplace beaucoup, souvent, des fois assez loin. Donc c'est tout de suite après une logistique beaucoup plus lourde. Et qu'on n'a pas forcément envie de faire supporter à nos chevaux qui sont bien mieux au pré, je pense. Voilà.
D'accord. Alors là, maintenant, je vais m'adresser à Marie-Claire Boussignac et à Pierre, toi, bien sûr. Et à. Alors, on a la chance aussi d'avoir Clara, qui est une, je le répète, une excellente cavalière. Est-ce que vous avez vu une évolution dans la façon dont les gens qui viennent à Combelles. Comment dirais-je, d'une certaine façon, se comportent ou s'adressent vis-à-vis de leurs leur chevaux, soit les chevaux du club qu'ils montent, soit de leurs propres chevaux si ce sont des propriétaires. Est-ce que vous avez noté quelque chose depuis, je dirais, ces 10 dernières années ?
Je pense que c'est pas tellement une évolution depuis qu'on a constaté. C'est surtout que les gens qui viennent à Combelles et qui montent, les cavaliers, les enfants surtout, ils viennent déjà par passion, par envie, et ils ont très souvent quand même une relation déjà privilégiée avec les chevaux et les poneys. On a les petits qui arrivent par exemple dès les baby poneys et puis qui continuent. Ils ont un contact inné, les enfants, déjà avec le cheval. Et ensuite, moi, ce que j'ai surtout constaté, c'est le côté pédagogique et formateur du cheval, de la pratique de l'équitation, mais surtout de la relation entre l'animal et l'enfant.
Il y a déjà eu un test que je fais avec les Shadoks, et avec, c'est quand même le cheval qui passait en priorité, parce qu'au point de vue pédagogique, on ne peut pas trouver mieux, enfin, c'est pas possible.
Alors c'est ça qui est extraordinaire, effectivement, Pierre va peut-être m'aider, c'est que c'est vrai que le cheval est peut-être un sport privilégié là-dessus, dans la mesure où on voit des, en particulier des enfants en vrac psychologiquement, comportement que le cheval remet, si je puis dire, sur le bon pied, ouais. Parce que le cheval, c'est une grosse bête. Et un cheval qui dit zut, comme dirait Jean-Yves, eh ben, on a beau gueuler ce qu'on veut, il dit zut, et puis c'est lui qui gagne. Donc l'enfant ou le jeune doit être dans une négociation permanente. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans un langage. Je parle tout seul et j'impose, hein, mais j'ai 450 kilos qui disent quelque chose, et j'ai intérêt à les écouter. Et généralement, ça redonne énormément d'abord confiance en soi, ce qui est important. Souvent, un gosse qui est un peu en vrac, c'est qu'en fait, il a pas, malgré son arrogance, il n'a pas confiance en lui. Ça lui redonne confiance et ça lui apprend effectivement à communiquer, c'est-à-dire à trouver un moyen terme, négocier avec le cheval. Pierre, qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, bien sûr, il y a une véritable relation entre les enfants et le cheval. On ne peut pas tricher avec un cheval. Il faut être à l'écoute. Le cheval ressent tout.
C'est agir sans mentir.
Oui. Le cheval ressent tout et l'enfant est obligé d'être à son écoute. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant des fois d'enfants qui sont en vrac. Pour le handicap, souvent le cheval aide énormément d'enfants qui ont des problèmes soit moteurs, soit mentaux. Pour répondre à la première question tout à l'heure, le pensage aussi amène beaucoup, on voit dans l'évolution. Ça s'est toujours fait, ça se fait dans tous les centres équestres.
Mais c'est important le pensage, c'est un examen médical qu'on doit passer à son cheval, donc il faut le connaître. C'est la première approche, c'est le premier contact, donc c'est très 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 important. On n'attache pas suffisamment d'importance au pensage.
Je crois que là, quand on dit le gosse doit être à l'écoute du cheval, on nommait une chose, c'est que le cheval est très souvent, lui, beaucoup plus à l'écoute du gosse à problème. Et là, je me souviens, avec Pied Blanc, que tu as bien connu, lui monter un aveugle sur lui, il faisait, je marchais à côté de lui, et je voyais le cheval très attentif, en train de réfléchir, pour quelle raison il agit comme ça, pour quelle raison, c'est pas ça. Et il est, lui, à l'écoute du cavalier. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire avec un projet dont j'ai parlé à Michel, qu'on met en route maintenant, c'est un cheval à un enfant, c'est-à-dire on s'est mis en rapport avec 5 centres équestres de la région autour de CFM, et je leur ai proposé donc de trouver un enfant handicapé, puisqu'ils font ces centres font de l'équithérapie, et trouver un enfant, on va choisir à travers un concours de dessin, mettant en relation le cheval, l'enfant et le Mexique. Et ce meilleur dessin, c'est très arbitraire, mais on proposera, avec bien sûr autorisation des parents, que l'enfant parte avec son éducateur du centre équestre au Mexique pour une randonnée équestre qui sera montée pour l'enfant.
Alors à quel horizon
Ça se fait maintenant. Là,
c'est en train de se faire maintenant.
Ça sera de toute façon en fonction des centres équestres et des possibilités du gosse de partir, mais à n'importe quel moment avant que ça soit le 31 décembre. Donc là, je lance un appel à tous les sponsors qu'il peut y avoir à l'écoute de CFM. Si vous pouvez nous aider pour les billets d'avion, et on va monter ce truc-là. Et les Mexicains sont emballés. Emballé par l'équithérapie qui est faite en France, qu'on appelle équinothérapie au Mexique. Et je crois que ça va être une très très belle chose de voir. Alors ça s'appelle un niño un caballo au Mexique, et ça s'appelle un enfant un cheval ici.
D'accord. Bon, Jean-Yves, tu as quelque chose à rajouter,
non,
je crois.
Non, je trouve que c'est très bien, j'applaudis à cette initiative.
D'accord. Nous, on ne peut pas faire grand-chose, pardon, au niveau sponsoring, mais si des fois il reste une place, je me sens un peu handicapé, des fois.
Mais chacun de nous est un petit handicapé qui s'ignore, ça c'est...
Ouais, ouais.
Bon, alors tu prends le A380, parce que je crois qu'il y aura du monde.
Ah, mais tout dépend des sponsors. Moi, s'ils veulent en envoyer 5, on en envoie 5. Hein.
Alors, Tita, toi, donc, ton expérience d'enseignante d'équitation, effectivement.
Ah, bah, bien sûr, tout ce que je viens d'entendre me parle complètement, puisque j'ai la chance, enfin, je dis la chance, parce que d'être avec des adolescents, parce que je trouve que c'est des étapes de vie qui sont souvent assez compliquées, où l'enfant devient adulte et c'est pas trop... où est son corps, comment il devient, ça grossit, ça grandit. Et je trouve que là, du coup, c'est assez fragile en même temps, même s'ils font un peu les caïds parfois.
Oui.
Et là, il se passe vraiment beaucoup de choses avec le cheval. Vraiment, moi, ça fait quelques années maintenant que je suis avec ce public et je trouve que c'est toujours merveilleux de les voir évoluer au fur et à mesure des années. Et je pense vraiment... dire à l'aide du cheval, quoi, où vraiment il trouve un équilibre, hein, comme dit Jean-Yves dans son livre, équilibre du corps et de l'esprit. Et oui. Je trouve que vraiment c'est quelque chose de...
C'est la recherche de soi qui est importante, et puis le caractériel qui est un enfant qui a peut-être beaucoup de qualités, mais qu'il n'arrive pas à gérer, et ben c'est apprendre à les gérer, et puis c'est tout, quoi. Et puis le cheval est pour ça extraordinaire. Hein,
parce et puis il y a cette qualité de cœur aussi, non, Jean-Yves, parce qu'on n'en parle pas, mais quand même, il y a une relation affective qui est quand même très forte, très puissante.
Très important.
Et qui est aussi très éducative, finalement, parce que c'est vrai que quand on peut... Enfin, moi, je le vois déjà par rapport à moi,
et puis par rapport à certains, quand j'ai donné des stages et des choses comme ça, où la première chose qu'on peut apprendre quand on est avec des chevaux, c'est à se maîtriser.
Oui, mais
c'est maîtriser ses propres émotions.
Mais il y a une condition quand même, c'est que il faut pas tomber trop vers la compétition et dire qu'importe le moyen, c'est le résultat qui compte. Alors que c'est le contraire, c'est le côté amical, c'est le côté aimable, c'est le côté affectif qui doit ressortir et travailler comme ça.
Alors ça, c'est une chose que j'ai découvert avec des bikers, les gens qui pratiquent la moto. Très souvent, ces gens-là, quand on leur parle très souvent, ils ont dans leur tête « je chevauche ma moto ».
Je chevauche ma moto.
Et pour eux, c'est un petit peu... Ils sont dans la route 66, c'est ça
hein. Ah, mais tout à fait.
Ils chevauchent, mais la grande différence, c'est que le type, il peut faire ce qu'il veut, y compris des bêtises, avec sa moto, parce que sa moto, elle lui obéit complètement. Tandis qu'avec le cheval, il y a une part aussi de participation du véhicule.
Ben, absolument.
Le cheval pense, il réfléchit, et puis il vit. C'est un
alors justement, je voulais continuer avec Tita, parce que tu as une méthode, c'est-à-dire que quand, je crois qu'on en avait parlé déjà, quand tu as tes élèves nouveaux à Vaxergue qui arrivent au lycée agricole, donc ils vont faire monter à cheval, qui ne connaissent pas le cheval ou qui n'ont jamais fait de cheval, ton premier soin... ça n'est pas de les faire grimper sur le dos du cheval, mais de les faire observer le cheval.
Oui.
Et je crois que c'est très important dans ton cursus pédagogique.
Oui, oui, oui. C'est vraiment la première approche, c'est de pouvoir les observer, découvrir réellement comment fonctionne le cheval, parce que c'est vrai que bon, il y a beaucoup de filles, elles ont tendance un petit peu à calquer le fonctionnement entre elles dire le cheval c'est pareil et découvrent qu'en fait il y a quand même d'autres codes. Bon, essayer de les mettre déjà à observer quelques temps où ils sont seuls, ils observent, bon, on a que des paddocks ou dans des prés, le fonctionnement un petit peu en groupe aussi des chevaux, parce que c'est quand même comme ça qu'ils fonctionnent naturellement oui. Hein, ils sont pas individuellement dans des boxes. Et puis après, et ben les maîtres vont leur donner quelques petits codes de, justement par rapport à la place qu'on peut avoir au cheval pour pas qu'il y ait non plus de danger par rapport à l'élève, et les mettre dans un rond fermé, bah seul, le cheval en liberté et l'élève. Et c'est vrai que là, je leur dis, mes pauvres, là, vous pouvez pas tricher, comme tout le monde a dit tout à l'heure. Hein. Je vous découvre de suite avec, alors, des fois, un petit peu ceux qui montrent vis-à-vis des autres, ils sont un peu forts, et qui arrivent et ça craque un peu à l'intérieur parce qu'il y a la carapace qui tombe, quoi.
Qui se fissure.
Et, oui. Et c'est toujours des instants excellents, quoi, parce qu'il y a des choses fortes, fortes qui sortent. Et les élèves sont souvent plein d'émotions, il y a beaucoup d'émotions qui sortent. Et ça fait des déclics, je crois, on gagne beaucoup après, même dans l'équitation.
Dans la progression future.
Et dans la progression future. Et je noterais que là, je reviens d'un stage à Rambouillet où il y avait l'INSEP, l'Institut National, où il y a le pôle où il y a normalement les grands champions des JO. Et on a eu des intervenants et ça m'a réellement fait plaisir. Où on parlait, où vraiment maintenant c'est rentré dans tous les instants, je crois que ce n'est plus la technique en elle-même qui doit exister. Il fallait tenir compte vraiment du côté social et du comportement. Donc quand même, c'est des études qui ont été faites et qui prouvent que justement, en abordant plus de ce côté-là et pas que technique, on faisait davantage évoluer l'élève. On parle d'optimisation de performance, hein, carrément, mais c'est vraiment maintenant prouvé, démontré... tout ça. Donc voilà, ça fait plaisir de voir quand même que dans les grandes instances, on se pose aussi ces questions.
Alors, Morgane, donc, je pense que tu as assez calé en éthologie du cheval, évidemment. Pour manipuler ces grosses bêtes, il faut quand même un peu les connaître leurs réactions. Et est-ce que tu remarques une différence de comportement du cheval? Par exemple, on dit que les jeunes filles font un pansage extrêmement long et méthodique du cheval, alors que les mecs ont tendance à trois coups de brosse. Ça, Jean-Yves Bonnet n'est pas là ouais. Qui nous regarde, donc on met vite la selle, machin, et voilà, papapap, et on fait le kékou.
On le voit.
Elles sont beaucoup plus attentionnées, oui, c'est voilà. Vrai.
Alors, ton opinion là-dessus, et le cheval, par rapport à ça.
Bon, je vais peut-être pas faire une généralité, hein, ça dépend des gens. Mais après, c'est sûr que, bon, moi, les gens qui m'appellent, forcément, ils sont quand même assez attentionnés avec leur cheval, donc, bon, je vois pas non plus toutes les catégories, mais après, c'est sûr que les filles sont en général très à poupougner leur cheval, elles y font attention, voilà, elles aiment bien passer du temps avec, c'est pas forcément que le monter, c'est sûr le pansage, même aller l'emmener brouter ou des choses comme ça. Après, il y a des garçons qui le font aussi, ils seront peut-être moins à mettre du lustrant sur la crinière ou ce genre de trucs. Mais bon, il y a des garçons qui s'occupent trop bien de leurs chevaux aussi. Après, au niveau du cheval lui-même, c'est à lui qu'il faudrait demander peut-être.
Alors ça s'est prouvé d'ailleurs. Les femmes réussissent mieux que les hommes qui veulent s'imposer par des moyens empiriques. Par la femme, elle est là, elle s'offre au cheval et c'est important. Ah, c'est... Et moi, je crois à l'histoire de Crème-Blanc, je crois à l'histoire de Fury, je crois à l'histoire de tous ces gens qui ont écrit ça et qui ont prouvé. Moi, j'en ai eu la preuve toute ma vie. Donc, je suis persuadé qu'il y a quelque chose de différent.
Et est-ce qu'on ne dit pas des fois, tiens, ce cheval, c'est un cheval à femme? Moi, j'entends parler souvent. Hein, où les,
oui.
On entend ça.
Oui, mais le réussisse avec les caractériels bien mieux que les hommes. Hein, ça,
c'est oui, il fut même
c'est
une
comme
époque
avec les gens.
Voilà, où on disait que les femmes devaient monter sur des juments ou sur des hongres, surtout jamais sur des chevaux entiers, pensez-vous. Un viol est si vite arrivé. Enfin bon, on a raconté aussi des bêtises.
C'est surtout pour la cavalière qui est devant le cheval entier.
Oui, mais ça c'est évident.
Mais on parle beaucoup des entiers, mais il faut aussi penser que les juments, elles sont entières, parce qu'on
absolument.
Dit tout le temps les entiers, ceci, cela, mais les juments peuvent être beaucoup plus compliquées que des entiers ou des hongres, de toute façon,
absolument.
Quand elles ont leur chaleur, etc. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on...
On peut dire que la jument est un cheval entier.
Ouais,
en
fait. Tout à fait, ouais.
C'est le problème qu'ont les hommes, c'est pour ça qu'on a des difficultés à penser aussi bien que les femmes, parce que pour mettre le rimmel sur les yeux des juments, c'est difficile quand même.
T'as essayé, Pancho?
Pas vraiment, c'est-à-dire j'ai eu que des mâles, moi.
Et ça se fait dans les présentations
les de Arabes Pulsar. Les Arabes de show, ils sont maquillés.
Ouais. Ah oui.
Ceci dit, donc avec patte blanche, donc tu avais réussi à rivaliser jusqu'à 10 cm en bas des pattes.
À pied blanc, c'était quelque chose de fabuleux.
Alors, on va s'accorder maintenant une pause musicale avec Fiesta en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera, donc qui veut dire fête dans le quartier de Santiago de Jerez de la Frontera.
Yeah.
Alors c'est extraordinaire, vous verriez ça, il y a Flamèche qui danse très bien le flamenco et qui était en train de nous faire une leçon absolument fabuleuse, avec en face Tita qui était assez bien partie aussi, voilà, et Jean-Yves qui tout est moustillé.
Ah mais oui, c'est vrai, moi je suis en admiration, moi.
Entre Tita qui lui fait face et Flamèche assis à côté de lui, qui a commencé à nous montrer comment un cheval dansait le flamenco. Alors justement, Jean-Yves, est-ce que les chevaux dansent le flamenco?
Ah oui, tout à fait, oui, quand Tipiaf, il danse le flamenco, hein. Là, c'est tout à fait le pas du piafé, hein, du flamenco.
Oui, c'est le pas du piafé, voilà, c'est ça. Par contre, est-ce que le pas espagnol, c'est vraiment...
Mais je suis contre un peu le pas espagnol, parce que c'est pas une allure naturelle, c'est une allure artificielle. Donc je suis pour le pas avec élévation, extension et soutien, que fait l'écuyer en chef à son mur, qui est le seul habilité et autorisé à faire. Voilà, parce que le pas espagnol, ça va un peu à l'encontre de l'équitation, ça creuse le dos... Et ça laisse les postérieurs à la traîne, alors que le cheval doit pousser avec ses postérieurs. Et un beau piafé, un beau flamenco, un beau piafé, c'est quand les postérieurs se rapprochent des antérieurs. Et il est allé toucher.
Alors je vois que Jean-Claude est en train de faire oui de la tête, de piner du
bout. Oui, j'avais une question, mais j'ai eu la réponse en fait. C'est la différence entre le pas espagnol et puis.
Le pas d'école.
Et puis le pas d'école, oui. En fait, c'est quoi? C'est juste l'engagement.
Le pas d'école, c'est l'allure à quatre temps, alors que parfois, le pas espagnol, ça laisse traîner derrière, et puis c'est anti-équitation, quoi, parce que ça creuse le dos, alors que dans l'équitation, on recherche le contraire, l'élévation des épaules et l'abaissement de la hanche.
D'accord, mais un pas espagnol où il y a l'abaissement des hanches, où il y a le dos qui monte et les épaules qui s'élèvent, à ce moment-là, c'est plus un pas espagnol, alors?
Mais non, il faut que le cheval se méjuge continuellement pour être dans l'équilibre et pour être dans... Donc il faut que les postérieurs passent en avant des antérieurs.
Et donc, comme il doit effectivement... Enfin, Jean-Yves, tu me le dis si je me trompe, comme il doit effectivement envoyer très loin ses antérieurs, la seule solution, effectivement, c'est de creuser le dos.
Mais quand il lève trop...
Et de se camper.
Trop les épaules, il ne peut pas... Il se creuse trop, il y a les postérieurs qui restent à la traîne.
Voilà, d'accord. Donc, tu n'es vraiment pas adepte de cette...
C'est spectaculaire, peut-être, mais en fait, c'est pas très bon pour...
Moi, j'ai toujours trouvé ça...
Pas très bon pour le dos du cheval.
Moi, j'ai toujours trouvé que les chevaux avaient l'air un peu dégingandés, un peu mal à l'aise, en réalité.
Ah ben, ils sont gênés, oui, c'est vrai, mais ils le donnent parce qu'ils sont piqués par les bras, bien souvent.
Au Mexique, on a de plus en plus des concours de chevaux bailadores. Et avec énormément de frisons, d'ailleurs. Oui, ils sont très très aptes à ça. Mais c'est impressionnant parce que c'est...
Alors là, c'est formidable. C'est déjà Karine vient de dresser une grande oreille frison. Oui.
Non, c'est vrai, c'est déjà un cheval très impressionnant. Karine, ça va jusqu'à quelle taille au garrot?
Alors, je sais que des frisons peuvent aller jusqu'à 1,80 m au garrot. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais c'est très impressionnant.
Et alors, que ce soit en défilé ou en concours, par exemple, à la fin de la semaine, on a la FIC, c'est-à-dire le Festival International du Cheval de Guadalajara, qui ouvre. Et d'ailleurs, la Route du Sel et CFM sont présents. Parce que j'ai envoyé les autocollants sur le stand.
Et on va pas. De plus en plus alors, d'auditeurs, et puis maintenant on est international.
Et on va présenter, et on présente là-bas, donc du concours de cheval bailador. Et là, c'est pareil, c'est comme pour les grands guitaristes, et l'amoureuse du flamenco qui est Flamèche va pas me contredire. Il y a des grands guitaristes qui savent danser avec temple, avec le bon rythme, et puis il y en a qui vont trop vite.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu appelles, on le dit aussi pour le cheval, qu'est-ce que tu appelles exactement le temple? On le dit aussi pour les chanteurs de flamenco. Qu'est-ce que c'est que le temple?
Temple.
Ça veut dire quoi?
Temple, c'est savoir s'accorder.
C'est le
avec
temps,
la
ça s'appelle la propos, ça.
Par exemple, ce qui est le plus important dans la tauromachie, c'est le temple, c'est savoir s'accorder le mouvement de la main sur le mouvement et la vitesse du taureau. Eh bien, au niveau du cheval, c'est la même chose. Le cheval qui tricote à toute allure, en dansant, c'est pas beau. On voit qu'il est, c'est contre nature, ce que disait Jean-Yves. Alors que le vrai tac 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 de taconeo, c'est quelque chose, c'est une allure naturelle chez le cheval. On sent qu'il prend du plaisir, et c'est la différence entre plaisir et forcé.
C'est la différence entre plaisir et forcé, bien évidemment, bien sûr. Voilà. Je pense que Jean-Claude est assez d'accord avec ça. Hein. Forcer un cheval, c'est pas ton truc, non?
Ah non, pas du tout, non. Non. Mais je pense que de toute façon, en forçant les choses, on peut pas avoir de retour. C'est un peu comme dans la vie. Quand on veut essayer de forcer la vie, les choses n'arrivent pas. Les choses, elles peuvent venir qu'à partir du moment où on va donner. C'est un peu bizarre ou étrange. Mais avec les chevaux, c'est vraiment réel, quoi. C'est à partir du moment où on va leur donner que eux, ils vont nous donner.
Mais ce qui est acquis dans la gentillesse est acquis pour la vie. Il faut qu'elle fixe toujours.
C'est l'amour physique dans le couple.
Oui.
C'est l'amour physique dans le couple. Si on force, ça va pas. Il n'y a pas de conquête, il faut donner et recevoir autant l'un que l'autre.
Mais c'est vrai, c'est un mariage.
Et avec le cheval, c'est ça.
Enfin, ça dépend s'il y a consentement ou pas. Quand
moi, j'avais une question pour Pancho.
Oui.
Alors, tu me disais qu'il y avait un engouement pour le frison au Mexique maintenant, et je voulais savoir d'où ça venait. Pourquoi le frison?
Probablement parce que c'est par rapport au cheval mexicain, même le plus haut, en principe, c'est le raza azteca, hein, qui est un croisement de quarter horse et de lusitanien. Bon, et qui a maintenant son statut, son bouc, etc. Mais c'est le plus haut des chevaux mexicains.
C'est-à-dire à peu près quelle taille, au garrot, grosso modo?
Alors là, on dit des grosses... Alors là, je vais dire des bêtises.
D'accord.
Aidez-moi, s'il vous plaît.
Une fourchette.
Un quarter horse, ça fait combien?
Un quarter horse, 57, 58.
Voilà, mais ça, Morgane, c'est le cheval de
comme 3. Comme un barbe, finalement, le quarter horse.
57.
57, ah oui,
et même avec des criollos qui sont même plus bas. Et c'est très important au Mexique d'avoir des chevaux bas pour une chose, c'est pour le lasso. Parce que plus le point d'attache du lasso sur le pommeau de la selle est haut, et plus ça déséquilibre. Donc plus le cheval est bas, et mieux c'est.
Ah
bah
oui.
Bon, mais ça, c'est un truc qu'on voit par exemple avec les Camarguais, ils ont quand même un cheval qui est beaucoup plus bas et qui est très, très apte à toutes ces choses-là. Mais les Mexicains ont une telle admiration pour des grands chevaux que le frison connaît là-bas. Si
il a la cote. Ah, il a la cote.
Fabuleux.
D'accord.
Oui, mais il y a quand même quelque chose de particulier, parce que des grands chevaux, il y a des grands chevaux allemands, pareil, qui font grosso modo les mêmes tailles que les frisons.
Oui,
les alors pourquoi ils prennent
non,
pas...
Non, il est plus spectaculaire, le frison. Le frison, il est spectaculaire de par lui-même, quoi. Il
bon,
a
alors,
train,
je pense qu'il y a déjà aussi une chose, il y a ce noir jet.
Oui,
le noir jet de la robe, parce qu'on n'a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de frison, de
si,
couleur.
Il y a des pies.
Si, maintenant, il y a des pies, hein, oui. Il y a des...
Je crois même qu'il y en a des blancs, j'ai cru comprendre, mais
ah bon,
à vérifier, oui.
Mais c'est vrai que c'est fabuleux. Et on les voit aussi bien dans les défilés que dans les cavalcades, que dans les concours.
Que dans les concours.
Et alors, ce qui est le plus beau, c'est quand on arrive à une étape, je pense à la Ruta Franciscana, qui est jumelée avec la route du sel, quand on arrive à une étape, en général, on arrive sur la place de l'église, on va dans l'atrium, carrément, c'est-à-dire sur la place qui est réservée pour les fidèles, tous les chevaux sont là, et en général, c'est du marbre. Eh bien, les chevaux se mettent à danser dessus. Moi, j'ai à chaque fois une trouille, c'est pas possible, il va s'écarter, ça va s'ouvrir, ça va casser. Non. Et le cheval prend du plaisir. Et quand on envoie un cavalier qui veut le pousser trop loin et le mettre à faire tricoter, on voit vraiment un air de déception de la part des autres cavaliers. Je crois que, pour moi, la cavalcade, la chevauchée, c'est une autre découverte, une autre approche du cheval. C'est ce que Jean-Yves a fait pendant 30 ans sur la route du sel, puisque c'est la 30e année cette année.
Et oui.
Eh bien, c'est nous permettre de découvrir un autre rapport avec le cheval. Et c'est vrai que les Mexicains eux-mêmes, c'est l'engouement pour la cavalcade. Pourquoi? C'est parce qu'on s'aperçoit que dans la cavalcade, les chevaux sont heureux et sourient. Moi, c'est pas des bêtises, je voudrais me tourner vers la spécialiste des éthologies, mais j'ai vu des chevaux heureux en cavalcade. Et je peux pas dire, bien que je sois charro, qu'en charrería, ça soit toujours le cas. Parce que on les pousse, parce qu'on leur fait faire des choses qui sont pas tout à fait dans leurs attributs. Tandis qu'en cavalcade, ils sont heureux d'être ensemble.
Voilà. Et alors, il peut y avoir énormément dans une cavalcade, il peut y avoir énormément de chevaux.
Ah oui. La dernière à laquelle j'ai participé, 1800 chevaux et cavaliers. Et attends, avec des poneys, avec des mules et des chevaux, tout mélangé. Chacun vient avec son cheval ou son truc, on les invite, on lance sur une radio, comme CFM, allô, bon, alors là, mercredi prochain, une cavalcade. Et les gens viennent, on leur donne le point de départ, on leur donne un petit pot d'accueil, etc. On marche pendant 3-5 heures, etc. Ensuite, un pot à l'arrivée, et chacun va retrouver son vent, etc., et ramener son cheval chez lui, parce que avec 1500 à 2000 cavaliers, on peut pas faire d'hébergement, bien entendu.
Oui, non, ça serait bon.
Mais c'est formidable. La plus grande cavalcade, elle a eu lieu il y a 15 jours maintenant, c'est la fameuse de la Petatera à Colima, et il y a eu 3200 cavaliers.
3200 cavaliers, voilà. Et alors, ce sont vraiment des particuliers, quoi, qui ont des chevaux et qui déboulent avec leurs chevaux, voilà.
Oui, c'est le cheval qui travaille en même temps. C'est le type qui va avoir, ou qui va avoir sa mule avec laquelle il rentre de la canne à sucre. Bah, il lui met une selle et puis il a son fils. J'ai une photo qui est merveilleuse où le type sur son cheval et puis il a une longe à la main et puis derrière il y a un poney qui est comme deux pommages doux et son gosse dessus. Et ils se sont fait quand même 4 heures de randonnée.
4 heures de randonnée, voilà, c'est cela.
C'est le plaisir.
Oui, Tita.
Je repensais à Flamèche quand elle lançait. C'est que je trouve qu'en fait, si on associe souvent le cheval en spectacle avec la musique et tout, c'est que il y a quelque chose qui permet de communiquer. C'est le rythme, je crois, hein, que dans la vie, le rythme qu'a le cheval, le rythme de la musique. Et je pense que c'est pour ça qu'à un moment,
il danse se... avec lui pour bien monter à cheval. Ouais. C'est important. Voilà. Mimer le mouvement.
Et donc c'est vrai que monter à cheval avec de la musique, c'est souvent...
La musique, ça inspire. Choses. Le cheval est musicien. Ah. Il est sensible à l'intonation de la voix, comme il est sensible à la musique. Ça, c'est important.
Alors, ce qui serait curieux, c'est d'écouter, pour ceux qui aiment bien, justement, je pense à notre technicien de CFM, d'écouter, de regarder deux vues maîtres du galop d'un cheval et du rythme cardiaque d'un bébé dans le ventre de sa mère.
Ah oui.
Ça se jouxte parfaitement. Sur un galop lent.
Oui, en parlant de rythme, justement, pour suivre l'idée de Tita, tout est rythme, tout est cycle, tout est rythme, partout, tout le temps, respiratoire, on a tous des cycles. Et lorsqu'il y a synchronisation de rythme, il y a vraiment ce sentiment d'harmonie, d'équilibre, et ça ouvre, voilà, ça crée une émotion très particulière. Voilà.
Et c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la fameuse résonance, qui est un phénomène physique qui est bien connu à ceci près, et ça n'est pas ça n'est pas des on-dit. Un groupe de personnes qui traversent un pont au même pas, le pont se casse la gueule, hein, ouais. Il s'effondre.
C'est de très fortes vibrations
qui s'amplifient petit à petit et qui se poussent ensemble les unes après les autres.
On a un phénomène comme ça de résonance qui est tout à fait impressionnant. On s'est aperçu il y a 2 mois et demi que toutes les pyramides qui s'appellent pyramide des Kukulkan, c'est-à-dire pyramide de Quetzalcoatl du serpent à plumes,
donc aztèque,
au Mexique,
hein.
Aztèque, Maya, et Maya, toutes celles, elles ont une particularité: quand on se met bien en face de l'escalier et qu'on tape dans les mains, l'écho fait, avant l'écho, on entend et c'est exactement le cri du Quetzal, de l'oiseau.
L'oiseau Quetzal, voilà, qui est l'oiseau vert, oui, absolument, qui était la couleur sacrée
Cette résonance, elle est due simplement aux contremarches qui arrivent à faire un son commun, à tout ramasser les sons, pour créer ce son-là.
Le fameux Quetzalcoatl, qui était le serpent à plumes du reste, et donc où les Aztèques et les Mayas allaient chercher dans des tribus en plein dans la forêt amazonienne ce fameux oiseau vert, cet oiseau Quetzalcoatl, extraordinaire.
Seul oiseau qui ne supporte pas la captivité.
Ah oui, d'accord.
Il meurt,
oui. Donc à la fois superbe oiseau et un oiseau effectivement...
20 cm de long pour le corps et 1,50 m pour les deux plumes de queue.
Pour les deux plumes de queue, avec un vert mais absolument incroyable, enfin je veux dire, indescriptible, d'une beauté folle. Oui. Et qui était la couleur sacrée des rois chez les Aztèques et chez les Mayas. Alors Pancho, je vais te laisser le soin, maintenant on va t'entendre... Plus exactement, on va entendre la chanson que tu as traduite en français, voilà. Alors, ouais. David va nous la mettre. Voilà.
C'est une chanson des Cadetes de Linares, qui sont un groupe du nord du Mexique, 4 musiciens fabuleux. Il se trouvait que la dernière fois, quand j'étais en studio à Guadalajara, ils venaient d'enregistrer, et moi j'arrivais pour enregistrer à mon tour. Et je voulais enregistrer tout à fait autre chose. Et là-dessus, j'écoute leur disque, c'est fabuleux, etc. Est-ce que tu me passes la bande d'orchestre? Il me dit oui. Et je dis, rendez-vous demain matin. Et pendant la nuit, j'ai composé les paroles françaises exactement sur les paroles mexicaines. Alors, je l'ai enregistré, bien sûr, pour la France en mexicain. Évidemment, c'est la version française qui marche fort au Mexique. C'est celle-là. Ça s'appelle Palomino. Une tourterelle égarée avec un joli bec doré. En passant, je l'ai vu pleurer tout en haut d'un grand goyavier. Couroucou, couroucou,
Roucou, laissons mal attristé. Couroucou, couroucou, pour qu'elle revienne sur sa niche. Eh ben. Tu es si jolie, reviens, traverse la prairie. Ton mal ne cesse de roucouler pour que tu viennes le retrouver. Couroucou, couroucou, roucoule ton mal attristé. Couroucou, couroucou, reviens très vite sur ta nichée. Pauvre tourterelle égarée, tu n'arrêtes pas de pleurer. Couroucou, couroucou, roucoule ton mal attristé. Couroucou, couroucou, reviens très vite sur ta nichée.
C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins d'une histoire fabuleuse, l'histoire de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui encore.
Non pour s'en servir, mais pour le servir.
Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez, 107.9. Ah, chouette, un cheval mexicain, génial. Et de CFM Villefranche de Rouen, 90.2. Hé, hey, Caballo, por favor. Ah, bon, quand même. Bon, Morgane, hein, il manque un peu d'avoine, hein, quand même. Vous pouvez également...
Il en passe par la tequila. Hein.
Je préférais qu'elle maîtrise.
Vous pouvez également... Non, mais c'est pas possible, restez sérieux avec des gens comme ça. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Alors vraiment un grand merci à vous toutes et à vous tous, mes amis, d'être venus, pour certains de loin, je le sais, et participer au 100e du Messager du Cheval. 100e. Merci à ceux qui nous écoutent de nous rester fidèles.
À la semaine prochaine et un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.
Hey, hey, partis les chevaliers, ayant des fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey. Combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey. Hey, hey. Marche droit et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, non, 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 non.
langues d'Otorouègue. Après la mer, les salins, les marais, les garis, le plateau du Larzac, la couvertura de Nyon, les Bézous, Saint-Liège, milieu du sel. Patrie de Béranger, de Landore, capitale du Roer de Rhodes, entrée dans la légende de la route du sel. Entrée dans la légende de la route du sel.